Revenons maintenant à nos dinosaures. On a parlé un petit peu des dinosaures, on a parlé du travail de paléontologues. Je vais revenir sur deux choses qui scientifiquement ont marqué les dinosaures ces derniers temps. C'est toute la vérité sur la disparition des dinosaures. C'est un sujet récurrent. Chaque année, il y a forcément un article qui sort dans les journaux sur « Ah, ça y est, on a enfin compris comment les dinosaures ont disparu ». Alors, ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'on a compris comment les dinosaures ont disparu. Ce qu'on fait en fait de plus en plus, c'est qu'on essaye de comprendre dans le détail, si je peux dire, dans le menu du détail, ce qui s'est passé. Donc, vous savez que vous pouvez sortir dans la rue sans vous faire agresser ni par un tyrannosaure, ni par un tricératops, que ces grands dinosaures ont tous disparu de la planète. Alors, on va voir tout à l'heure qu'ils ont eu des descendants tout de même, mais que. A priori, il n'y a plus de gros dinosaures sur la surface de la Terre. Donc, ces dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, à la fin du Crétacé. On sait qu'à la fin du Crétacé, il y a tout un tas d'événements qui semblent pouvoir expliquer leur disparition. Encore faut-il faire le lien entre les deux. On assiste à la fin du Crétacé à la disparition des dinosaures, mais pas simplement des dinosaures. J'ai même envie de dire que la disparition des dinosaures, qui en plus pas tout à fait vrai, est complètement anecdotique. On a en fait ce qu'on appelle une extinction de masse, c'est-à-dire des modifications brutales et surtout globales. C'est-à-dire que ce sont des modifications qui vont toucher tout le globe et qui vont affecter le monde vivant et entraîner la disparition de tout un tas d'animaux. Ces disparitions d'il y a 65 millions d'années, vous avez tous entendu parler de la météorite qui aurait tué les dinosaures. On a en fait deux grandes écoles qui s'affrontent, qui continuent à s'affronter aujourd'hui. Alors, pour ce qui concerne cette histoire de crise crétacé-tertiaire, de disparition des dinosaures, il faut bien faire la différence entre ce qui reste le fait scientifique et ce qui est l'interprétation des scientifiques. Les faits scientifiques, quels sont-ils? Alors, effectivement, on a les preuves qu'il y a 65 millions d'années, il y a une météorite qui est tombée. Cette météorite, elle est tombée au Mexique, au large de ce qu'on appelle la péninsule du Yucatan. Donc la péninsule du Yucatan, elle est ici. Vous avez le golfe du Mexique. Et cette météorite a laissé des traces. Elle a laissé des traces et entre autres des structures rondes qu'on voit très bien par anomalie gravimétrique, qui sont en fait des traces du cratère. Mais évidemment, ce n'est pas ces structures qu'on a vues en premier. Historiquement, la chute de la météorite de Chicxulub, elle a été mise en évidence grâce à des anomalies, on va plutôt dire, d'ordre géochimique. Deux scientifiques, vous avez ici la famille Alvarez, Luis et Walter Alvarez, dans les années 80, se sont intéressés à des métaux rares, dont un métal rare qu'on appelle l'iridium. L'iridium est un métal rare qu'on retrouve en très petite concentration dans les couches terrestres. Et comme il est rare, Walter Alvarez avait décidé de l'étudier pour essayer de calculer des taux de sédimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire calculer combien de temps met une couche pour se déposer. Et en étudiant la couche d'argile qui sépare les calcaires qui sont là et les calcaires qui sont là, là il y a une petite couche d'argile, ils ont mesuré le taux d'iridium et là ils ont trouvé un taux d'iridium tellement important qu'il était impossible de l'expliquer par une simple origine terrestre. Il fallait que cet iridium vienne d'ailleurs. C'est à partir de là qu'ils ont décidé, donc quoi qu'ils ont décidé, qu'ils ont émis l'hypothèse qu'une météorite était tombée il y a 65 millions d'années sur la Terre. Ils ont validé cette hypothèse en essayant de trouver cette couche et cette anomalie d'iridium partout sur le globe. Parce que la trouver à un endroit, c'est une chose. Ici, on se trouve à Gubbio, en Italie. Et en fait, avec les sondages ODP, c'est-à-dire les sondages qui ont été faits un peu partout dans les océans, on s'est rendu compte qu'on retrouvait cette anomalie d'iridium dans tous les sédiments de la planète. Et à partir de là, on a bien pu voir que cette couche d'iridium marquait bien un point précis dans l'histoire de la Terre, donc celui de la chute d'une météorite. Ce n'est que dans les années 1992, 91, qu'on a trouvé donc ce fameux cratère de Chicxulub qui est venu confirmer la chute de la météorite. Tout va bien, on a des animaux qui disparaissent, on a surtout une météorite qui tombe, tout concorde. Le problème, c'est que quand la famille Alvarez a sorti son hypothèse de météorite, D'autres personnes travaillaient sur l'Inde. Et en Inde, il y a 65 millions d'années, donc exactement à la même époque, il se trouve que vont se mettre en place des épanchements basaltiques qui représentent un volume considérable, puisque vous avez vu plus de 512 000 km3, ça représente à peu près la surface de la France sur la hauteur du Mont Blanc, donc des laves volcaniques qui se mettent en place à la même époque. Et ces laves volcaniques, ça par contre, on est sûr qu'elles n'ont strictement rien à voir avec une chute de météorite. Ces laves volcaniques, elles proviennent donc d'épanchements basaltiques qui se sont produites au moment où l'Inde a entamé sa traversée. Je vous ai montré sur la carte du Trias tout à l'heure, l'Inde était au sud, donc elle a traversé tout l'océan Indien, et en passant sur le point chaud qui correspond aujourd'hui à la Réunion, eh bien, ces basaltes se sont mis en place. En se mettant en place, ils ont très probablement dû provoquer tout un tas de dégazages qui pourraient être tout aussi nuisibles que la chute d'une météorite aux écosystèmes de la fin du Mésozoïque. On se retrouve donc avec deux candidats, je vais dire, pour expliquer la disparition des dinosaures. D'un côté, la chute d'une météorite, qui est un fait scientifique prouvé. De l'autre côté, des épanchements basaltiques d'ampleur gigantesque en Inde, qui sont là aussi quelque chose de scientifiquement prouvé. Est-ce qu'on peut relier ça avec les archives fossiles? Eh bien, si on regarde les archives fossiles, on va se rendre compte que, effectivement, à la fin du Crétacé, tout un tas de groupes vont disparaître. Donc, on a parlé des dinosaures, on verra que ce n'est pas tout à fait vrai. Vous retrouvez ici mon fossile de mosasaure, de reptile marin. Tous les reptiles marins disparaissent il y a 65 millions d'années. Tous les reptiles volants, vous avez tous entendu sans doute mentionner une fois le ptérodactyle ou le pteranodon. Ces animaux-là vont disparaître eux aussi il y a 65 millions d'années. Mais il n'y a pas que les gros animaux qui disparaissent, il y a tout un tas de petits animaux qui disparaissent. Dans les mers, le groupe le plus emblématique qui va disparaître, c'est le groupe des ammonites. Ces ammonites, tout le monde les connaît. On va aussi avoir un autre groupe emblématique qu'on appelle les rudistes. Ce sont des bivalves qui forment des espèces de récifs. Ce ne sont pas des coraux, mais des bivalves, mais qui forment aussi des récifs. Tous ces animaux disparaissent à la fin du Mésozoïque. Mais si certains disparaissent, d'autres, au contraire, vont passer la crise crétacé-tertiaire sans trop de problèmes. Vous avez ici quelques exemples. Les oursins, en haut à gauche. On a parlé des ammonites qui disparaissent, mais vous avez tous vu flotter dans un aquarium des nautiles. Les nautiles sont un groupe voisin des ammonites, mais qui ne disparaît pas il y a 65 millions d'années. Et puis, par exemple, parmi les bivalves, vous avez le groupe des huîtres, qui, lui non plus, ne va pas disparaître. Parmi les survivants à cette crise, on va aussi trouver les plantes. La plupart des plantes traversent la crise crétacé-tertiaire sans problème. Vous avez en haut à gauche une pomme de pin. En bas, une feuille de laurier. On a l'impression qu'on pourrait la mettre dans la soupe. Ces plantes vont passer la crise crétacé-tertiaire sans problème. Et associées à ces plantes, on trouve des insectes qui, eux aussi, survivent à cette grande extinction. Parmi les autres animaux à squelette, on va retrouver des tortues et des crocodiles qui, eux aussi, disparaissent de cette crise, au cours de cette crise. Donc tout ça pour vous dire, pour faire le point, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la crise? On sait que cette crise a bien eu lieu, il y a assez d'animaux qui disparaissent pour en être sûr. On connaît deux candidats possibles, c'est-à-dire ou la météorite ou les volcans. Par contre, à l'heure actuelle, je pense que personne n'est capable, premièrement, de trancher définitivement. Certains vont dire c'est la météorite, et la météorite seule aurait suffi à faire disparaître les dinosaures. D'autres vont dire non, on a des preuves qu'à d'autres époques, le volcanisme a fait disparaître tout un tas d'animaux sans intervention de météorites. Et puis il y a d'autres, un petit peu comme moi d'ailleurs, je serais peut-être un petit peu dans ce cas-là, qui ont une vision un peu plus normande de l'histoire en disant peut-être ben que oui, peut-être ben que non, et que finalement c'est peut-être les deux éléments combinés qui ont provoqué la disparition de tout un tas d'animaux. Donc la météorite plus le volcanisme. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qu'on ne pourra probablement jamais savoir, c'est comment se sont enchaînés les événements. Parce que même si la météorite a disparu, même si la météorite est tombée il y a 65 millions d'années, les événements qui vont se succéder à la chute de cette météorite, dans les 300, 400 000 ans qui suivent, on ne peut pas les suivre. Tout simplement parce qu'au niveau des temps géologiques, on n'a pas un découpage stratigraphique assez important au niveau continental pour y répondre. certains collègues travaillent sur des micro-organismes et peut-être qu'au niveau marin, on pourra à certains endroits essayer de suivre les faunes, mais cela reste vraiment très très difficile. Et il est donc probable qu'il y aura des nouvelles études de fait dans les années à venir. Et il est donc très probable que tous les 2 ou 3 ans, vous verrez réapparaître cette histoire de disparition des dinosaures. Et tous les 2 ou 3 ans, quelqu'un aura enfin compris comment les dinosaures ont disparu. Je pense qu'on a déjà compris, mais qu'il ne faut pas aller trop loin. Alors, les dinosaures ont-ils disparu? Je conclurai par une dernière petite partie là-dessus. Donc, les dinosaures survivants de la crise crétacé-tertiaire. Donc, en fait, non. Les dinosaures n'ont pas disparu il y a 65 millions d'années. C'est quelque chose qui traîne dans tous les bons manuels, mais qu'on commence petit à petit à changer. On commence à changer les idées là-dessus. Il faut savoir qu'il y a un groupe de dinosaures carnivores très particulier. Et ce groupe de dinosaures carnivores particuliers, ce sont les oiseaux, qui s'est individualisé il y a 135 à 150 millions d'années. Vous retrouvez ici notre arbre généalogique des dinosaures, et la branche que vous avez ici, c'est la branche des oiseaux. Et les oiseaux, vous le voyez, sont inclus au sein des dinosaures carnivores. Et on voit qu'ils divergent de la famille des droméosaures. Alors, les droméosaures, c'est un grand mot pour raptor, ces fameux petits raptors que vous avez là. Donc, les oiseaux et les raptors divergent il y a à peu près 150 millions d'années. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Pourquoi est-ce que je vous dis que les oiseaux sont des dinosaures? Alors d'abord, juste pour être sûr, pourquoi déjà d'un point de vue des termes, on peut dire que les oiseaux sont des dinosaures? Vous êtes tous d'accord pour reconnaître que vous êtes des mammifères, j'espère. Ça, c'est quelque chose qu'on enseigne depuis plus d'un siècle. Donc l'homme, avec les grands singes, forme le groupe des primates, avec Eomaya, qui est un très vieux mammifère mésozoïque, va former le groupe des placentaires. On apprend aux enfants qu'on est des mammifères placentaires. Si on rajoute le kangourou et l'ornithorynque, tous ces animaux-là forment le groupe des mammifères. Vous êtes donc d'accord pour dire que l'homme est un primate, placentaire, mammifère. A priori, jusque-là, ça va. Maintenant, je fais la même chose pour les dinosaures. Vous avez un colibri, et en dessous, vous avez Archaeopteryx. Archaeopteryx, c'est un fossile du plus vieil oiseau connu. C'est le nom du plus vieil oiseau connu, je vous le présenterai après. Archaeopteryx, c'est le colibri, forme le groupe des oiseaux. Si vous rajoutez le tyrannosaure, il forme le groupe des théropodes, ce que j'ai appelé tout à l'heure les dinosaures carnivores. Et si je rajoute le diplodocus et le triceratops, tous ces animaux vont former le groupe des dinosaures. Donc, si on suit la même logique, il faudrait dire que le colibri est un oiseau, théropode, dinosaure carnivore, dinosaure. Alors maintenant, si vous êtes d'accord sur cette petite démonstration qui ne concerne que les termes, maintenant, ce qu'il faut juste que je vous montre, c'est pourquoi est-ce que le colibri est placé à côté, et l'archéoptérix sont placés à côté du tyrannosaure. Puisque tout le fond de l'histoire est là. Donc c'est cette théorie, c'est cette histoire, c'est ce qu'on appelle donc la longue controverse qui concerne l'origine des oiseaux. Donc l'origine des oiseaux, c'est une controverse scientifique et paléontologique qui dure depuis plus de 150 ans. Ça fait 150 ans que tout un tas de scientifiques se battent pour savoir quel est le groupe qui a donné naissance aux oiseaux. Et tout un tas d'hypothèses ont été formulées. Toutes ces hypothèses tournent toujours autour d'un seul et même groupe, celui de ce qu'on appelle les archosaures. Les archosaures, c'est un groupe dans lequel on met aujourd'hui les crocodiles et les oiseaux, mais qui inclut aussi les dinosaures et les ptérosaures, les reptiles volants. Alors pendant 150 ans, on s'est battu, et en fait, il a fallu apporter des preuves. Qu'est-ce qui nous prouve que les oiseaux sont des dinosaures? Alors, d'abord, il faut regarder un petit peu les preuves morphologiques. Vous avez ici deux fossiles qui viennent d'une même carrière, les carrières de Solanophon en Allemagne. À gauche, vous avez un petit dinosaure carnivore qu'on appelle le Compsognathus, ça signifie mâchoire élégante. Et de l'autre côté, vous avez Archaeopteryx, vieilles ailes. Donc deux fossiles éminemment célèbres qui ont été trouvés à la fin du 19e siècle. Et ce qui est incroyable, c'est que dès 1854, on a trouvé Archaeopteryx. C'est un fossile vieux de 150 millions d'années. C'est le plus vieux fossile d'oiseau. Et aujourd'hui, 150 ans plus tard, ça reste toujours un, voire même le plus vieil oiseau connu. Donc il a été trouvé très très tôt dans l'histoire de la paléontologie. Et cet oiseau, cet Archaeopteryx, Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'était un oiseau? Bah, c'est facile, vous voyez très bien sur le fossile que vous avez des empreintes, des plumes qui ont été laissées. C'est un calcaire lithographique, c'est un calcaire très très fin, tellement fin que quand l'animal est mort, eh bien, on a, en plus de son squelette, on a récupéré, on a conservé l'empreinte de ses plumes. Donc un animal à plumes, a priori, jusqu'à preuve du contraire, c'est un oiseau. C'est un oiseau très particulier quand même, puisque vous pouvez voir que cet oiseau possède une queue osseuse. Quand vous plumez votre poulet le dimanche, il n'y a plus de vertèbres au niveau de la queue de l'oiseau. Si, je crois que j'ai un autre spécimen d'Archéoptéryx, si vous regardez le crâne de cet animal, vous avez ici le crâne d'un autre individu. Si on regarde au niveau des mâchoires, on va se rendre compte que l'Archéoptéryx a des dents. À l'heure actuelle, vous ne connaissez plus aucun oiseau avec des dents. Les oiseaux ont perdu leurs dents. Mais à cette époque, les oiseaux avaient encore des dents. C'est le cas pour l'Archéoptéryx. Regardez maintenant le bout des ailes. Le bout des ailes, vous allez voir un, deux, trois doigts, chacun muni d'une griffe. Une griffe et une main qui rappellent celle des dinosaures carnivores. Et surtout, une griffe qu'on ne retrouvera plus chez les oiseaux actuels, puisque les oiseaux actuels ont fusionné tous leurs doigts, il n'en reste plus qu'un, c'est le doigt numéro 3. Donc on a tout un tas de caractéristiques très étonnantes chez Archéoptéryx, aucun doute que c'est un oiseau, mais il présente une allure reptilienne, et dès qu'on a trouvé ce fossile, on a compris que c'est du côté des reptiles, et du côté des crocodiles, et des dinosaures, et des ptérosaures, qu'il fallait chercher l'origine des oiseaux. Alors, tous les groupes ont été passés en revue. Tous les groupes, en premier lieu, celui des ptérosaures, ces grands reptiles volants. Alors, les reptiles volants n'ont rien à voir avec les oiseaux. Pourquoi? Vous voyez l'aile de votre dinosaure. Cette aile, elle est formée par tout le bras, hein, c'est-à-dire là, vous avez l'humérus, et surtout l'avant-bras et toutes les plumes. Chez les ptérosaures, l'aile est formée par un doigt simplement. C'est-à-dire que la membrane de l'aile va être attachée simplement à un doigt qui est le doigt 4. Donc l'aile des ptérosaures n'a rien à voir avec une aile d'oiseau et une aile d'archéoptéryx, et on a très vite éliminé les ptérosaures comme possibles ancêtres des oiseaux. Il fallait chercher des caractères très très précis. Et on en a trouvé quelques-uns. Je vais vous en citer quatre rapidement. Le premier, c'est un os que vous connaissez tous, même si vous ne le connaissez pas, c'est ce qu'on appelle la fourchette ou la furcula. Pour être plus précis, c'est l'os des veaux. Quand vous mangez le poulet le dimanche, vous avez des espèces de fourchettes qui correspondent en fait aux clavicules. Chacun tire sur un bout et celui qui a le plus grand bout, son vœu se réalise. Bon, bah, cet os, ça représente les deux clavicules soudées. Ces clavicules soudées, on ne les connaît que chez les oiseaux. Que chez les oiseaux et chez un autre groupe, les groupes des dinosaures carnivores. On a retrouvé ces clavicules soudées. Vous en avez un, deux et trois exemples chez les petits dinosaures carnivores, ces petits raptors. Autre caractéristique essentielle pour comprendre la filiation, on pourrait prendre le poignet. Le poignet des oiseaux, c'est une structure très complexe. Vous savez que pour pouvoir voler, les oiseaux doivent avoir des mouvements de poignet qui sont très amples. En particulier, au niveau du poignet des oiseaux, vous avez un seul os qui assure l'articulation. Cet os, il a une forme de demi-lune et on l'a appelé le semi-lunaire. Et quand les oiseaux battent des ailes, ils peuvent quasiment mettre leurs petits doigts parallèles à leur avant-bras. Moi, si je force, a priori, j'ai plus de poignet dans 5 minutes. Chez les oiseaux, c'est possible grâce à ce semi-lunaire. Et ce semi-lunaire, on le retrouve chez les oiseaux, mais en fait, il est présent bien avant. Il est présent bien avant et on le retrouve encore chez les dinosaures carnivores et on retrouve toujours nos raptors là-haut. Donc voilà des structures qui sont uniques aux oiseaux et aux dinosaures carnivores. Je pourrais continuer, je pourrais vous faire tout un cours d'anatomie. On a à l'heure actuelle plus de 125 caractéristiques anatomiques qui ne sont partagées que par les oiseaux et les dinosaures. Mais la plus importante, et ce qui a un petit peu clos le débat, ça a été la découverte il y a maintenant une quinzaine d'années des dinosaures à plumes. Alors, je laisse ça de côté. Des dinosaures à plumes, ça remonte à 1996. On se trouve en Chine, dans le nord-est de la Chine, au nord-est de Pékin. dans une région qui s'appelle le Liaoning. Donc vous avez ici la Chine, Pékin est quelque part là, et le Liaoning se trouve là. Et donc dans cette province, on a trouvé, au fond de lacs, donc de restes de lacs fossilisés, hein, c'est des calcaires lacustres, on a retrouvé toute une faune extraordinaire. On a retrouvé dans cette faune, vous le voyez, des papillons sur lesquels on conserve même les nervures des ailes. Pareil sur la mouche, on est sur des animaux qui sont vieux de 130 millions d'années et pourtant on a gardé toute la nervuration. C'est des véritables archives fossiles, hein, c'est des livres ouverts. Vous voyez, vous avez des couches de calcaire qu'on va déliter et quand on ouvre, eh ben, on tombe sur ces animaux et on tombe de temps en temps sur des vrais oiseaux avec des plumes conservées. Et donc, de temps en temps, sur des spécimens encore plus extraordinaires, on a retrouvé dans ces gisements des mammifères conservés avec leur fourrure, du moins l'empreinte de la fourrure, c'est pas la vraie fourrure, mais c'est l'empreinte de la fourrure. On a retrouvé les plus vieilles plantes à fleurs, hein, je vous disais tout à l'heure qu'elles étaient apparues il y a 130 millions d'années, et bien c'est de Chine qu'on a les plus vieux représentants du groupe des plantes à fleurs. Bon, ça, on peut passer sur le plus grand mammifère mésozoïque. Et donc, surtout, on a retrouvé ces dinosaures à plumes. Je vais vous en montrer quelques-uns. Juste vous dire que ces plumes n'ont pas toujours l'allure des plumes qu'ont les oiseaux actuels, mais ce sont parfois des plumes beaucoup plus frustres et parfois des simples filaments ou des petits plumets. Mais pensez bien que sur un oiseau, vous avez différents types de plumes, entre les rémiges et les rectrices, entre les plumes de contour et les plumes de vol, il existe une grande différence de morphologie. Et donc cette différence de morphologie, on va la retrouver chez les dinosaures à plumes chinois. Vous avez ici différents exemples, avec donc ce petit bonhomme, dont on voit le crâne ici, l'œil, et vous voyez qu'au-dessus du dos, on retrouve cette petite structure filamenteuse. Vous en avez un détail ici, et quand on les regarde de près au microscope, ça ne fait aucun doute, ce ne sont pas des fibres musculaires ou quoi que ce soit, ce sont bien des plumes, puisque quand on regarde en détail au microscope, on retrouve ces petits organites qui sont des mélanosomes. Les mélanosomes, c'est quoi? Ce sont ces structures qui vous donnent la couleur, la pigmentation de vos poils, et selon l'importance, selon la forme, selon la densité des mélanosomes, on va avoir plus ou moins, on va avoir une couleur plus ou moins foncée. Donc ces structures sont bien des plumes et on va les retrouver chez 35 espèces de dinosaures différentes. La plupart sont rattachées à ce fameux groupe des raptors. Vous en avez ici plusieurs exemples, avec des plumes qui se complexifient chez certains, puisque là vous avez une patte, vous avez ici la queue de l'animal, là-haut vous avez la tête, et au bout de la queue vous avez une espèce de plumet avec des plumes très complexes. Et là, vous avez le bras, et au niveau du bras, vous avez là aussi un détail avec des plumes qui ne sont plus des simples filaments, mais bien des plumes pennées avec un rachis, des barbes, des barbules, comme chez les oiseaux modernes. Dernier exemple, sans doute le plus parlant, ce dinosaure qu'on a appelé Microraptor. Microraptor, il ne fait pas plus de 1 mètre. Donc juste aussi pour vous rappeler que les dinosaures ne mesuraient pas tous 40 mètres de long, ça teint avec une taille de 50 cm ou 1 mètre, ils étaient les plus nombreux. Et ce Microraptor a la particularité d'avoir des plumes, vous les voyez très bien, à la fois sur les avant-bras, mais aussi au niveau des jambes. Ce qui veut dire que cet animal, quand on le reconstitue, voilà à quoi il ressemblait. Alors évidemment, il y a plein de gens qui se sont, surtout en France, parce que sinon ça ne marche pas, qui se sont amusés à l'appeler la 4L du Mésozoïque. Donc cette 4L, ne volait pas. Les 4L n'ont jamais volé, c'est bien connu. Cette 4L ne volait pas, ses plumes, une fois de plus, ses structures avaient une autre fonction que le simple vol. Le vol est apparu bien plus tard. Les plumes sont apparues, on pense, pour deux raisons. Les raisons, vous pouvez les deviner. La première, c'est celle pour laquelle on les utilise toujours aujourd'hui, c'est-à-dire un rôle de thermorégulation. Vous utilisez des plumes pour les couettes, enfin maintenant on n'utilise plus des plumes, mais on utilisait des plumes pour les couettes ou pour les doudounes quand on allait skier. Et deuxième chose, les plumes ça sert aussi, et on s'en sert toujours pour ça, à faire joli. Et chez les dinosaures, on pense que la plume est apparue d'abord comme, toujours pareil, un caractère sexuel, une ornementation qui permettait aux animaux de se reconnaître ou pour les parades nuptiales. Donc, on est sur des animaux, on arrive à la conclusion que la plume n'est plus l'apanage des oiseaux, que la plume est apparue bien avant les oiseaux, elle est apparue chez les dinosaures, on n'a aucun autre groupe fossile qui présente de telles structures et des plumes, et on est sûr donc aujourd'hui que les oiseaux dérivent bien des dinosaures carnivores, et donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que les oiseaux sont des dinosaures. Donc les dinosaures n'ont pas complètement disparu il y a 65 millions d'années. Pour remettre ça dans un cadre actuel, ça c'est un autre exemple, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Mais pour voilà un autre exemple d'Anchiornis, donc un dinosaure à plumes. Mais pour remettre ça dans un cadre actuel, il faut savoir que sur la Terre, aujourd'hui, vous avez près de 10 000 espèces d'oiseaux. Ça fait à peu près 10 000 espèces de dinosaures. Et contrairement à ça, nous ne sommes que 3400 à 3500 mammifères. Donc on n'est pas une époque qui est dominée par les mammifères. C'est une époque qui semble, selon nos critères, dominée par les mammifères. Mais les dinosaures sont plus abondants à l'heure actuelle sur la planète que les mammifères. Et je fais un clin d'œil à tous les collègues qui travaillent sur les micro-organismes. N'oubliez pas que tout cela, tous ces grands vertébrés, ne sont qu'une infime partie de la biomasse, ne sont qu'une infime partie de la biodiversité si on commence à s'intéresser à des animaux de très 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 petite taille. Je vais m'arrêter là pour maintenant, et puis maintenant je vais surtout essayer de répondre à vos questions, puisque je suis sûr que une très bonne lecture pour ceux que ça intéresse, un petit peu de pub au passage quand même, et je vous invite à me poser tout un tas de questions si cela vous intéresse.